Manyanga.
Alphonse Kougimana est de l'autre côté de la vitrine. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord le sommaire. Les organisations Parsem, Loukom et Olukom appellent le nouveau gouvernement à s'impliquer davantage pour redresser l'économie du pays et trouver des solutions aux problèmes qui le minent, notamment le manque de carburant et de devises. Les représentants de ces organisations locales l'ont dit ce jeudi dans des conférences de presse sur la mise en place de la nouvelle équipe gouvernementale. En réaction, Jérôme Niondima, secrétaire général et porte-parole du gouvernement, trouve que c'est normal que Parsem et d'autres organisations émettent des critiques. Mais il faudrait aussi reconnaître le pas franchi et attendre l'opérationnalisation effective. Et le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a sorti ce jeudi un communiqué portant fermeture de certaines écoles, de même que certains cycles, sections et filières pour l'année prochaine, pour cause de non-respect de la réglementation en vigueur. Vous aurez les détails avec notre correspondant de Lumonge, Jean-Pierre Bissago. Bienvenue.
La radio de l'avenir.
Le gouvernement du Burundi, le nouveau gouvernement du Burundi, devra s'impliquer davantage pour trouver des solutions aux problèmes que traverse le pays, notamment le manque de carburant et de devises. Propos du directeur national de Parsem lors d'une conférence de presse animée ce jeudi. Faustin Dikoumana appelle son nouveau gouvernement de travailler dans le strict respect de la loi et de lutter contre la corruption qui gangrène différentes institutions étatiques. Suivez-le.
Parsem alerte, il y a des préalables. Premièrement, il faut que chaque ministre fasse son introspection, se regarde dans le miroir sur sa capacité technique de comprendre les subtilités éléments de son ministère. La complexité des dossiers exige une compétence technique. Deuxièmement, la moralité, c'est-à-dire amour du travail. Ne pas sombrer dans des comportements de bas étage comme les détournements, clarifissements illicites, petits soucis. Troisièmement, le leadership fort, capacité de mener les hommes, de faire face aux réformes. Quatrième, c'est le soutien politique que le président de la République doit donner à son gouvernement. Et lui accorder le plein pouvoir opérationnel et être tenu à résultat. Pour la séparation des tâches, l'orientation stratégique, le suivi, mais le pouvoir opérationnel doit être accordé entièrement au gouvernement et être tenu à résultat. Il ne faudrait plus qu'il y ait des interférences. C'est des interférences liées aux généraux. On parle souvent des généraux qui ne veulent pas respecter la loi. Il faut évoluer. Ça, c'est un comportement vraiment qui nuit au développement économique d'un pays. D'où là où tu passes, on dit, c'est un général qui parle, on dirait que la loi est fuie. Quand le général apparaît, les lois de la République disparaissent. Les opérateurs économiques qui nantent de les richesses considèrent que les richesses leur permettent de s'arroger tous les droits dans l'impunité totale. Le parti au pouvoir casser cette interférence entre les affaires du parti et les affaires de l'administration. Il faut complètement séparer. Quant au défi, le carburant, l'inflation, les devises, les produits de première nécessité, manque de liberté économique, paupérisation, services publics, corruption, éducation, santé, infrastructures, délabrées. Reste la culture de respect de la loi. Le fait que les hommes cohabitent harmonieusement au sein d'une société, il faut créer des lois pour créer l'harmonie sociale. Si on ne respecte plus la loi, c'est la loi de la jungle.
Les nouveaux membres du gouvernement récemment nommés sont aussi appelés à être au service des citoyens afin d'améliorer leurs conditions de vie. C'est un appel lancé par Gabriel Roussili, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques Olucom. C'était ce jeudi lors d'un atelier de présentation des résultats d'une étude sur le respect des droits économiques, sociaux et culturels organisée par cet observatoire. Pour que ces droits soient pleinement réalisés et que le pays puisse atteindre un développement durable. Gabriel Roussili estime que les nouveaux membres du gouvernement devraient faire appel à des experts pour les former afin de permettre aux Burundais de vivre dans de meilleures conditions. Gabriel Roussili.
Quand on analyse, prenons le budget général de l'État qui a été adopté en juin et qui a commencé à être utilisé début juillet. Il est clair que le budget général de l'État, donc ce que nous appelons en termes techniques, les charges du budget, c'est autour de 5 300 milliards de francs. Ça, ce sont les charges du budget. Les recettes du budget, c'est autour de 4 700 milliards de budget. Par rapport aux recettes et aux dépenses courantes, c'est clair que les recettes courantes sont presque en parallèle avec les dépenses courantes. Quand on parle de recettes courantes, il faut entendre par là les biens et services, donc les achats et les salaires pour les militaires, la police, les fonctionnaires de l'État, etc. etc. Donc, les fonds qui restent pour booster l'économie, c'est presque le financement du déficit budgétaire et les appuis des partenaires qui sont autour. Donc, le financement du déficit et les appuis des partenaires, c'est à peu près 2 000 milliards parce que c'est autour de 1 900 milliards, choses comme ça. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas développer un pays sur base des appuis. C'est impossible. Le pays est développé sur la base de ce que je peux appeler les fonds propres. Et pour le moment, les fonds propres, on n'en dispose pas vraiment, c'est clair. Mais il y a une solution. La solution que nous proposons, c'est d'abord l'austérité budgétaire. Il faut que, à commencer au plus haut sommet de l'État, les fonctionnaires, nous tous, on essaye d'entrer dans cette austérité, dans le but de booster l'économie du pays. Parce que il est impossible que cette vision soit mise en application. Il faut que tout le monde soit dans son bateau, a envie de conduire au Burundi vers la réalisation de cette vision.
En réaction, Jérôme Niyonzima, secrétaire général et porte-parole du gouvernement, trouve que c'est normal que les organisations émettent des critiques, mais il faudrait aussi reconnaître le pas franchi et attendre l'opérationnalisation effective. S'appuyant sur le manque de devises, il appelle ses acteurs à conscientiser les Burundais sur le fait que les devises proviennent du surplus de la production. Suivez-le.
La PARCEM et les autres organisations qui critiquent, c'est bien, et ce sont des organisations qui sont à l'œuvre, et ils ont le droit de critiquer ou de faire un clin d'œil, mais je pense qu'il y a quelque chose qui devrait être ajusté à leur niveau. Ça veut dire que, comme on ne peut pas dire que tout est rose, on ne dira pas que tout est noir. Ainsi, par exemple, on ne pourrait pas dire que ce que vous projetez ne va pas être mis en œuvre. S'il y a une planification, s'il y a un plan, s'il y a une vision, on ne peut pas devancer la mise en œuvre de cet objectif et dire on sent que ça ne sera pas mis en œuvre. Maintenant, par exemple, que je vous dis qu'il y a un plan d'exportation de cette espèce d'avocat, on ne pourrait pas dire ça, on sait que ça ne sera pas mis en œuvre. C'est bien de critiquer ce qui n'est pas positif, mais c'est aussi bon de reconnaître ce qui est positif, à mon avis. Sinon, la PARCEM, par exemple, c'est le réveil de la conscience. Je crois que avec la parole pour le réveil de la conscience, elle devrait s'appliquer autant pour l'État, mais autant pour le citoyen lambda. Ça veut dire réveiller aussi la conscience pour ces citoyens qui aujourd'hui pensent que les devises seront apportées par le gouvernement, qui pensent que le carburant sera apporté par le gouvernement, et leur montrer qu'il faut réveiller les consciences en leur montrant que les devises ne peuvent entrer que par exportation et les exportations ne proviennent que du surplus de la production.
Captez Isanganiro, écoutez la différence.
Page éducation à présent, certaines écoles, de même que certains cycles, certaines sections et filières qui ont fonctionné avec l'année scolaire 2024-2025 seront fermées avec l'année scolaire prochaine pour cause de non-respect de la réglementation en vigueur. Cela est contenu dans un communiqué sorti ce jeudi par le professeur François Vzalimana, ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Cette autorité ministérielle a-t-il l'attention du public sur leur irrégularité et demande aux élèves de ne pas se faire inscrire dans ces établissements, n'est-ce pas, Jean-Pierre Misako?
Il s'agit d'une vingtaine d'écoles et centres des anciennes directions provinciales de l'éducation de la mairie de Bujumbura, de Gitega, de Karusi et de Rumonge qui sont concernés selon son communiqué sorti ce 7 août 2025. Certaines de ces écoles qui avaient pourtant fonctionné avec l'année scolaire 2024-2025 seront fermées avec l'année scolaire 2025-2026, de même que certains cycles et certaines sections et filières pour cause de non-respect de la réglementation en vigueur, selon professeur François Djalimana, ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, dans son communiqué. Son ministère demande pour cela aux élèves de ne pas se faire inscrire dans ces établissements. Il recommande en outre à tous les responsables des établissements scolaires privés d'afficher toutes les autorisations reçues et demande aux parents de bien vouloir vérifier si les établissements dans lesquels ils veulent inscrire leurs enfants disposent des autorisations nécessaires. Les directeurs provinciaux et communaux de l'éducation sont tenus de suivre particulièrement ces établissements, cycles, sections et filières fermées afin qu'ils n'induisent pas en erreur les élèves et les parents, mais également de collaborer avec l'administration territoriale pour arrêter immédiatement tout contrevenant, conclut son communiqué.
Merci à Jean-Pierre Misago pour tous ces détails. Le sol cultivable du Burundi a atteint un niveau d'acidité de 73%, ce qui compromet la production agricole ces derniers temps. Cette information a été révélée ce mardi lors d'un atelier d'échange portant les attentes et les priorités en matière de formation à la transition agroécologique au Burundi. Séverin Djimbere, expert en gestion des sols, a présenté les problématiques liées à la fertilité des terres. Il a souligné que les sols cultivables burundais se détériorent progressivement, notamment à raison de la perte de fertilité et de la diminution de nutriments. Il appelle les agriculteurs à utiliser davantage le fumier organique local qui contribue à améliorer la capacité du sol et à retenir les éléments nutritifs. Suivez-le.
Les sols du Burundi sont menacés par des dégradations. Je veux seulement parler des principales dégradations qui menacent ces sols. C'est d'abord les érosions hydriques et ensuite les dégradations chimiques se manifestant par l'acidification et ensuite la dégradation biologique qui touche aussi la dégradation physique, c'est l'appauvrissement en matière organique. Et je veux aussi revenir sur la pauvreté des sols du Burundi en éléments chimiques, à nutriments. Ça, c'est très important. Et alors, les érosions hydriques. Vous voyez, les terres très pentues du Burundi sont menacées par l'érosion hydrique. Et cela est dû essentiellement à la surexploitation par l'agriculture qui fragilise ces sols. Et ces sols étant rendus fragiles par les pratiques de labour pour des cultures saisonnières. C'est-à-dire, les sols sont labourés à chaque saison, sans arrêt. Ils sont fragilisés et ils sont apporté par les précipitations. Et tout ça, c'est dû essentiellement aux pratiques à la surexploitation agricole des terres. Ça, c'était l'érosion. Les principales sous-types de dégradation interne des sols du Burundi se manifestent par l'acidification des sols, mais aussi des appauvrissements en éléments nutritifs. Et les sols du Burundi ont une fertilité intrinsèque faible, c'est-à-dire ils ont un faible pouvoir de rétention des nutriments. Pour bien gérer durablement les sols du Burundi, il faut agir simultanément sur quatre points clés. 1. Il faut la lutte contre les érosions. 2. Il faut application de la chaux là où il le faut. Et 3. Les applications des engrais chimiques. Et 4. Il faut enrichir ces sols en matière organique en y mettant du fumier.
L'actualité continue sur Isanganiro. Les messages de haine sont largement utilisés par de nombreux Burundais en général en raison de ce qu'ils entendent régulièrement. Propos de l'abbé Dieudonné Nibidi, expert en communication, ce mercredi lors d'une conférence de presse organisée par le Centre national pour la prévention des conflits CNAP à l'occasion du lancement d'un guide de pratique pour la prévention des messages de haine et des violences de masse. Le père Dieudonné a plaidé pour que des formations soient organisées pour tous, sous toute forme possible, afin que les gens puissent éviter les propos blessants. On l'écoute.
Nous estimons qu'il y a des expressions de haine et d'incitation à la violence. La première chose serait de ne pas les rediffuser et de ne pas donc les continuer à les distribuer. La deuxième chose, c'est peut-être, ça dépend des médias, de pouvoir organiser et prévoir des émissions, des programmes relatifs à ce genre de contenu, c'est-à-dire les déconstruire, par exemple, dans la société, ou montrer le côté violent de ces expressions, descendre sur les collines pour s'entretenir avec la population et voir si la population est consciente de ce degré d'agression, de ce degré de virulence qui se trouve dans ces contenus. Et donc, il faudrait accompagner encore une fois la population jusqu'à ce qu'on ait un entendement commun, une vision commune par rapport aux risques que ces contenus peuvent causée sur la société. Là, j'allais revenir sur un aspect qui est souvent relevé, c'est qu'au Burundi, nous avons besoin d'un guide de communication politique adressé, bien sûr, utilisé par les hommes politiques. Et au niveau du ministère de l'Intérieur, qu'il y ait une politique nationale claire qui délimite le cadre de communication politique. Jusqu'ici, il manque, c'est un vide qui est là, mais il a été déjà souligné et ce vide a été déjà relevé. Je crois que bientôt, on va devoir avoir ça.
Radio Isanganiro Chronique.
La chronique Société de ce jeudi est centrée sur la sensibilisation des filles à embrasser les sciences. Une enseignante d'université et spécialiste en genre constate que les effectifs des filles vont augmentant. Toutefois, dit-elle, elles ne sont pas aussi nombreuses dans les postes de prise de décision ou à la tête des entreprises de construction. À titre d'exemple, Monique Kayibanda appelle les enseignants, les parents et l'entourage à encourager les filles à faire les sciences et ainsi avoir des femmes modèles pouvant inspirer de nombreuses filles. Les détails avec Mireille Kanyang.
Au fil des années, les filles fréquentant les sciences ne sont pas nombreuses au même titre que leurs frères. Cela fait suite à certaines barrières, dont celles culturelles et la pauvreté, explique une spécialiste en genre. Monique Kayibanda, enseignante d'université, estime que le manque de modèles dans l'entourage et l'absence de femmes dans des postes de prise de décision démotivent des parents qui voudraient que leurs filles fassent des études supérieures dans des facultés de sciences.
Le problème, pourquoi il n'y a pas ces modèles? Pourquoi il n'y a pas ces modèles? C'est que même la fille qui a osé, qui a percé, qui a persévéré pour arriver à ce niveau, après elle n'a pas les mêmes chances et les mêmes opportunités que le garçon pour occuper des postes vraiment visibles. Quand un parent voit la fille de tel, elle est devenue quoi? Le garçon de tel, il est devenu quoi? Voilà ce qu'on appelle modèle. Prenons par exemple, si on voit les places de décision, les instances de décision, qui les occupe? La grande partie, ce n'est même pas 30%. Des fois, c'est 20%, 10%. Oh, la famille veut vivre. Mais bon, si tu fais beaucoup des études, ma fille, tu ne trouveras pas le mari. Mais aussi, est-ce que tu vois les postes, on donne à combien de filles? Les modèles seront là s'il y a la volonté politique de valoriser ces filles qui ont pu prendre l'audace d'embrasser cette filière.
À titre d'exemple, dit-elle, les femmes ayant fait des facultés de génie civil sont nombreuses, mais le constat sur terrain est tout autre.
Aujourd'hui, on a des filles, on a des femmes qui ont fait des hautes études, qui ont fait des bonnes écoles, et qui ont fait ces filières. Mais j'aimerais qu'un jour vous fassiez une enquête pour voir les filles qui ont fréquenté les filières scientifiques et les filières de TIC, combien occupent des places de décision. Combien? Ça fait plusieurs années que l'université Lumière, que l'université Akiriri, que l'université Hope continue à former les ingénieurs en génie civil, en informatique, à l'université du Lac, etc. Mais combien de filles ont des places pour première place dans les entreprises, les places de décision. Combien?
Selon cette enseignante d'université et spécialiste en genre, différents intervenants en matière d'éducation de la fille, notamment l'entourage, devraient encourager ces filles.
Il faut qu'on sente des efforts au niveau des décideurs. Qui encouragent ces filles, c'est-à-dire de leur donner des postes de prise de décision pour les filles qui ont osé, voilà les postes qu'elles occupent. Dans la communauté, les familles, il faut qu'on encourage les filles. Arrêtons d'empêcher la fille d'aller à l'école.
Les filles et femmes qui ont fréquenté les facultés de sciences devraient servir de référence et les filles afficher leur volonté et les filles afficher leur volonté à aller plus loin, suggère-t-elle.
Voilà, se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Alphonse Kougimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikouananga. Bonne suite de nos programmes.